La barbe fait bien trop souvent le barbare. Octobre 2025, quelque part en Suède, une trentaine d'hommes posent devant les ruines d'un château médiéval. Barbe fournie, regard intense, un drapeau noir flotte devant eux. La police antiterroriste débarque en trombe. Elle pense tomber sur une cellule djihadiste. En réalité, juste la branche scandinave des Bearded Villains, les méchants barbus. Une asso de fans de pilosité faciale. Mauvais casting, mauvais réflexe. Umut Köker, lui, a la barbe fournie, les origines turco-kurde et une gueule de videur, il le dit lui-même. Mais c'est un drôle de poète. Son spectacle paradoxe, loué par la critique, revient à Paris, au Métropole, et débarque dans toute la France à la rentrée. Bonjour Umut Köker.
Bonjour.
À 18h30, comme tous les soirs, c'est le panorama de la culture. Ce soir, on pleure Bob Wilson, pionnier du théâtre visuel mondial disparu hier. On lève les yeux vers les étoiles, on frissonne avec le hors-série de Mad Movies et on guérit avec Chapel Rhône. Alors posez-vous tranquillement, enduisez-vous la barbe d'huile de ricin pour qu'elle pousse un peu plus. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Umut Köker, votre spectacle s'appelle Paradoxe et j'aimerais beaucoup que vous décriviez aux auditeurs l'affiche de votre spectacle et son symbole.
Alors l'affiche, c'est cette fameuse tête que j'ai et la barbe à papa. c'est tout le paradoxe de la personnalité, de ce que je.
Vous portez un gros blouson en cuir. Vous avez le regard un peu sévère. Mais comme là devant moi.
Exactement. Ouais.
Et vous avez une barbe à papa pour le contraste, c'est
exactement,
ça ?
Exactement, c'est la différence entre ce que je suis et ce que je dégage.
Avant de disséquer vos vannes, on passe au moment test, au moment crayon à papier, monoï et huile de bronzage. C'est l'interview haute saison. Umut Köker, il se passait où vos étés quand vous étiez adolescent ?
Alors, la plupart de mes étés se passaient en Turquie, parce que mon père avait l'habitude de retourner voir mes grands-parents du coup. Donc tous les étés, quasiment, c'était la Turquie.
Pendant 2 mois ?
Pendant facile 1 mois et demi, ouais.
Et vous en gardez quel souvenir ?
J'en garde beaucoup de douleurs.
Pourquoi ?
Beaucoup de bronzage. Parce que c'était des vacances, mais dans un village.
Okay.
Donc on était entouré de chèvres et de vaches. Donc c'était des vacances un peu d'agriculteurs, quoi, si je peux dire ça comme ça. Mais sinon, on en garde quand même un très bon souvenir.
Le truc que les gens adorent faire en été, mais que vous détestez ?
Quelque chose que j'aime bien faire en été ?
Non, que les gens aiment faire, mais que vous détestez faire.
Aller à la plage.
Ah, vous aimez pas la plage ?
J'aime pas la plage.
Pourquoi ? Vous vous ennuyez ?
Je sais pas, le sable, je crois.
C'est
un ennemi commun, la sable.
Ouais,
le sable.
Je comprends, tout à fait. Ouais. Je vous conseille la rivière, du coup.
Ouais, c'est
pas mal. Votre pire job d'été, si vous en avez eu ?
Le pire job d'été, c'est travailler pour ma grand-mère, je crois.
Dites-nous en plus.
Aller traire les chèvres.
Ok, donc toujours en Turquie.
Toujours en Turquie,
ça se passait comment, les journées ?
Ça se passait comment ? Absolument rien à faire.
L'ennui total.
À part attendre la nuit et dormir, quoi.
Ouais. Ok. Ouais. La boisson de l'été pour vous, votre boisson
la
préférée.
La boisson de l'été, je dirais le ayran. C'est une boisson turque, c'est du lait caillé, un peu salé, mais c'est ma boisson d'été. Ouais.
On va plonger dans vos paradoxes, Umut Köker, mais avant ça, j'ai envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans, le premier été de liberté.
Ouais.
On est en 2012. À l'époque, on utilise trop les expressions Zlatané et swag. Lucas Rocco Magnotta, le dépeceur de Montréal, vient de se faire arrêter à Berlin, mais il se passe beaucoup d'autres événements. Écoutez bien.
Docteur Bader, ça me paraît être le bon moment pour vous mettre en colère.
Et voilà mon secret, Captain.
Je n'ai jamais cessé d'être en colère.
De Genève à Melbourne, le cœur des physiciens du monde entier s'est emballé ce matin à l'annonce de la découverte. Une annonce planétaire relayée dans tous les laboratoires de recherche, car la découverte possible du boson de Higgs est aux physiciens ce que fut celle de l'ADN pour les biologistes. Un moment d'une intense émotion pour celui qui a donné son nom à cette nouvelle particule, le Britannique Peter Higgs, 83 ans.
C'est Florent Manodou, incroyable sensation. Le petit frère s'est fait un prénom, Florent Manodou, champion olympique.
Alors, on a entendu les Avengers, la découverte du boson de Higgs, section d'assaut, ma direction évidemment, Florent Manaudou qui a été champion olympique en 2012. Vous faisiez quoi, vous, l'été, quand vous aviez 20 ans?
En Turquie.
Toujours?
Je te jure, jusqu'à... mais c'était mon dernier voyage, par contre.
C'est vrai? Vingtaine.
Ouais, bah oui.
Et vous y êtes retourné après?
J'y suis pas retourné depuis.
Toujours
parce que ça m'a traumatisé.
Depuis 12 ans?
Depuis 12 ans, je ne suis pas retourné. J'ai
Donc,
voulu visiter
adieu
ailleurs.
Adieu les chèvres.
C'est ça, adieu les chèvres. place au building à New York, je crois.
Et vous avez, ouais, vous allez, mais vous êtes retourné en Turquie quand même ou...
Je ne suis pas retourné au village, non, depuis.
Avant de parler de votre spectacle Paradoxe et de la Turquie, on reste en 2012, année du premier album de Frank Ocean et de son single Lost.
Double D, big four breast on my babe. Triple weight, couldn't weigh the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wear the work I got on your girl. No, I don't really wish. I don't wish the titties for sure. No, have I ever let you get caught? Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. At the stove, can't believe I got her out here cooking dough. I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday.
Lost de Frank Ocean, extrait de Channel Orange sur la chaîne Rouge France Inter.
France Inter. Le mag de l'été.
Il faut arrêter de dire que tous les barbus à la pommade, c'est forcément une raison islamique. Okay, moi, j'ai une théorie, je pense qu'il y a beaucoup d'esthétisme dedans. Tous les barbus savent ce qu'ils cachent quoi. Ça va, toi? Ah, elle est bien visible, ta barbe. Hein. Ouais, y a quoi en dessous?
Quoi?
Quelques rondeurs? Tu caches tes rondeurs? Ça va encore. C'est moi ce que j'ai en dessous? J'ai un menton. En forme de cul. Que je ne dévoilerai jamais de toute ma vie. Mais ils me fascinent, ces gens qui sortent de chez eux rasés, fesses à l'air. Mais quelle audace de montrer votre intimité à tout le monde, frère. Il y a un monsieur qui vient voir, allez où la tour Eiffel? Je dis, m'inscris toi avant de me parler.
Extrait de votre one-man show Paradox au Mood Cocker, un spectacle qui a cartonné côté critique à Avignon, même dans Le Masque et la Plume sur France Inter. Oui, c'est possible. Dans votre spectacle, vous commencez par parler de votre barbe, on vient de l'entendre, et vous dites d'emblée, j'ai un faciès, qui ne permet pas de longs silences.
Exactement.
Qu'est-ce qu'elle provoque, cette barbe, comme réaction?
Je crois que ça provoque... ça intimide beaucoup les gens, je crois. J'ai pas mal de soucis avec ce regard assez noir, même pour draguer, par exemple.
Bah, j'allais vous demander, ouais. J'ai l'impression que ça pose problème avec la jante féminine.
Bah ouais, une fois j'ai demandé le numéro à une fille, elle m'a donné tout son téléphone.
vous avez appelé d'ailleurs la barbe, et on l'entend, hein, le Sephora des hommes moches, parce que ça cache quelque chose.
Exactement,
c'est ça.
On est tous complexés, les barbus.
Vous avez fait quasiment 10 ans d'études. Quand vous avez commencé, qu'est-ce qui vous a en fait donné envie de monter sur scène?
Qu'est-ce qui m'a donné envie de monter sur scène? Je pense la vie, en fait.
C'est-à-dire
plein de signes de la vie qui m'ont fait comprendre que ma place était sur scène et pas derrière un bureau.
Vous avez un exemple, par exemple? Quelque chose qui vous a...
Un prof de français que j'ai rencontré, qui m'a fait des cours à moi tout seul, pour montrer à peu près ce que c'était le stand-up. Et il m'a demandé de foncer dans mes rêves et pas lâcher prise.
Quoi. Et c'était quand ça?
Ça, c'était 2016, je crois, c'était le bac.
Vous vous rappelez de votre première sur scène?
Ma première sur scène, oui. C'était au Panama Café.
Donc un haut lieu du stand-up à Paris.
Un haut lieu du stand-up. Il fallait ramener du monde.
Ouais.
Deux personnes minimum. J'ai ramené deux personnes et c'était les seules personnes dans la salle. Donc j'ai joué devant mes amis, quoi.
Et ça s'est bien passé, du coup? J'espère pour vous, quand même.
J'espère pour moi, ouais. Pas pour eux, je sais pas, mais pour moi...
Votre écriture, elle est drôle, mais elle est quand même traversée par de la souffrance ou le rejet. Ça a été aussi un moteur?
Bien sûr, c'est le moteur même de pourquoi je monte sur scène.
Ce spectacle, vous l'avez coécrit avec Walidia, donc humoriste engagé, chroniqueur sur Mediapart, comédien dans Une heure à tuer. Comment elle s'est passée, cette rencontre? C'était quand?
Wally, encore une fois, c'est les planètes qui sont alignées avec Wally. C'est le premier spectacle de stand-up que je vais voir de ma vie à 18 ans. Et puis finalement, on se retrouve sur un projet, sur un tremplin d'humoriste dans lequel il m'appelle. Et depuis, on s'est pas lâché. Et aujourd'hui, c'est comme mon mentor, Wally.
Donc, il vous a aidé sur l'écriture. Comment vous avez bossé ensemble?
Des sessions d'écriture, tout simplement. On se retrouve, soit on s'appelle, soit on se retrouve à boire un café. On discute de tout et de rien.
Vous avez grandi en banlieue parisienne. Vous le dites sur scène, j'ai une double personnalité que je ne maîtrise plus. Pourquoi votre bac plus 5, c'est un paradoxe?
Le bac plus 5, c'est un paradoxe par rapport au milieu où j'ai grandi. Quand tu grandis dans un quartier, on n'a pas forcément la notion déjà des études, parce qu'on sait qu'il y aura toujours des freins vis-à-vis de ce qu'on représente. Et aller à l'école sur Paris, c'est compliqué, parce que c'était quand même 1h30 de trajet tous les matins.
Vous étiez où précisément?
À Limay-Brévannes, dans le 94. Donc, c'est un paradoxe par rapport à là où j'ai grandi.
J'aimerais qu'on écoute ensemble un de vos confrères.
Les JO d'hiver 2030, magnifique, en vrai premier degré, j'ai ultra hâte. J'espère qu'il nous restera de la neige en 2030, hein, c'est le sujet avec tout ce qui s'envoie à l'Assemblée nationale. Mais j'espère être présent aux JO des neiges. En vrai de vrai, ça dépend, on connaît ainsi, d'ici là je suis autorisé de nouveau à porter un bonnet sur le territoire. Et, en vrai, 2030, juste à être sur le territoire, parce qu'il y a Marine 2027 avant. Marine 2027, les JO 2030, le crossover peut être énorme. Hein. Et la neige, oh l'avalanche, pile pendant le passage des athlètes marocains. Oh, strange, amazing, c'était Nelson Montfort. Mais...
Alors, on vient d'entendre Merwan Ben Lazar, qui a été violemment attaqué après son passage à la télé sur France 5 à cause de sa barbe, de son bonnet, de son look. Il ne participe plus d'ailleurs à cette émission. On parle évidemment d'islamophobie. Vous avez réagi comment quand vous êtes
quand j'ai vu ça, je dis bien fait Merwan, c'est mérité. Non, en fait, ce qu'a subi Merwan, c'est quelque chose que moi-même j'ai subi dans le milieu de l'humour, parce que malheureusement, on est dans des quotas. On remplace une barbe par une barbe. Toujours.
Il ne peut pas y avoir plusieurs barbes.
Non, parce que pour certaines personnes, on est tous dans les mêmes idées, alors que pas du tout. Moi, je vais parler du rasage de couilles. Je pense pas que Merwan y parle de son rasage du pubis, quoi. Mais malheureusement, c'est des quotas qu'on subit. Et en fait, ça m'a pas tant que choqué que ça.
C'est-à-dire que ça a été dans la continuité d'un système dans ce milieu-là, quoi.
Exactement.
Vous avez cartonné à Avignon cet été. C'était votre première fois à Avignon?
Première fois à Avignon, ouais.
Comment vous avez vécu cette expérience? C'est un festival, déjà, où le théâtre peine un peu à laisser sa place à l'humour, même s'il y a de plus en plus de spectacles d'humour. Et puis, c'est un festival quand même assez bourgeois. Comment ça s'est passé?
Ben écoutez, bourgeois, je sais pas, vu qu'il y a des gens qui marchent pieds nus dans la rue. Ça ressemble plus à Clignancourt qu'au 16e.
Des saltimbanques, quoi, c'est
ça? Des saltimbanques. Mais écoutez, ça a été une expérience incroyable. J'ai pu rencontrer pas mal de personnes et le spectacle, il a vraiment cartonné.
Et vous avez été bien accueillis?
Très, très bien accueillis.
On va continuer à interroger nos contradictions et nos paradoxes. Mais d'abord, ça sera notre traditionnel panorama de la culture. Ce sera juste après un peu de R&B créole par Seliawa. Démounage, traduction, aliénation. Démounage, c'était Seliawa qui sera en concert à Paris le 5 septembre au studio L'Ermitage.
Le mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours à 18h32, le Mac de l'été passe en mode vigie culturelle. C'est le panorama.
Panneau.
Oui.
Obé.
Non, c'est panneau.
Le naturalisme, c'est un mensonge. Vous mettez quelqu'un sur les planches et s'il tente de jouer naturel, ça semble tellement artificiel. Mais si vous acceptez l'artificiel, bizarrement pour moi, ça semble plus naturel. On peut aussi être plus franc avec ce que l'on fait. Ce qui me fascine avec Charlie Chaplin, Buster Keaton, c'est que tout est de la danse. Le maquillage est artificiel, le timing, les mouvements, c'est comme de la musique, de la danse.
Bob Wilson, metteur en scène américain visionnaire, s'est éteint à 83 ans hier à New York. Icône du théâtre et de l'opéra contemporain, avec ses créations emblématiques Le regard du sourd, Einstein on the Beach, des hommes façonnés avec patience et lenteur. Wilson inventait un théâtre abstrait, visuel, suspendu, loin du naturalisme. Il répétait d'ailleurs, je cite, « la lumière est l'acteur le plus important sur scène ». Avec lui disparaît un sculpteur du temps et de l'esthétique qui voyait l'art comme une méditation visuelle.
Là, c'est Ossidius.
Où ça ?
Juste là, tu vois ? Une espèce d'arc qui se termine par une croix. Ossidius l'inflexible.
Tu me racontes des conneries.
Non ? Ossidius est juste là, un arc et au bout une croix.
Mais t'as fini de te foutre de moi ?
Ce soir, c'est le moment de pécho votre crush. Apportez votre couverture et des bulles. La nuit des étoiles commence et ce sera jusqu'à dimanche. Le meilleur moment de l'année pour lever la tête. Chaque région y va, de son site, son ambiance, ses géantes et ses constellations. À Oust, par exemple, en Ariège, rendez-vous à la ferme équestre de Coumario avec l'association Ciel d'Occitanie. Pour savoir où ça se passe du côté de chez vous, rendez-vous sur le site de l'Association française d'astronomie qui nous a même concocté une playlist pour l'occasion. Si vous avez une phobie des requins, araignées ou lézards géants, passez votre chemin. Pour les autres, foncez en kiosque sans trembler pour le nouveau hors-série de Mad Movies, revue de référence en films d'horreur et fantastique. Intitulé « Les animaux attaquent », il consacre un dossier choc aux créatures les plus flippantes du cinéma. Piranha sanguinaire, crocodile assoiffé de chair ou armé de fourmis tueuses. Les Dents de la Mer de Spielberg est à l'honneur évidemment pour ses 50 ans, avec des anecdotes croustillantes dans un dossier qui suinte d'hémoglobine. Des oiseaux d'Hitchcock au nanar sous la scène sur Netflix, en passant par le remarquable Vermine de Sébastien Vanitschek. Tout l'Arche de Noé et le paysage cinématographique y passe. Mad Movies hors série en kiosque dès aujourd'hui. L'américaine Chappell Roan, révélée en 2024, a publié dans la nuit The Subway, un nouveau single à l'esthétique plus intime, une balade de métro à l'allure d'une rupture introspective, le cœur qui fond entre chaque station comme un train qui s'éloigne. Chappell Roan, lauréate du Grammy 2025 de la meilleure nouvelle artiste, offre ici une confession pop à fleur de peau, un morceau d'une puissance calme en rupture avec son tube incontournable Good Luck Babe, dont les sonorités habillent notre cher Mac de l'été. Allez, allez, on stream. On regarde la mer et on pense à ses amours déchus.
Ce sont nos familles là-bas. Nos enfants se marient ensemble. Mes cousins habitent en Syrie. Nous ne voulons pas qu'ils soient nos ennemis. Nous voulons la paix. Cette opération turque, je suis contre. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est la paix avec Assad. Ils ont déjà attaqué El Bab, Afrin. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Des morts chez eux et chez nous.
On est en 2022 à Umut Koker, extrait d'un reportage de France Inter. Pour venger l'attentat d'Istanbul qu'il attribue à des Kurdes du PKK, le président Erdogan lance des raids aériens contre les régions kurdes du nord-est syrien. Vous êtes d'origine turque et kurde. C'est un autre paradoxe, vous le dites. Et vous dites d'ailleurs, le conflit turco-kurde, c'est le Lidl des conflits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Vous sentez qu'il y a un manque d'intérêt ou de compréhension des Français ?
Bah oui, c'est un conflit qui n'intéresse pas grand monde en France. De toute façon, quand je dis aux gens que je suis turc et kurde, ils me disent que c'est la même chose. Alors que pas du tout. C'est
comment vous expliquez que ça n'intéresse personne?
Ben, je pense que les Kurdes aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, je sais qu'ils ont contribué à beaucoup de choses, notamment contre à l'époque l'État islamique. Ben aujourd'hui, ils sont toujours abandonnés, quoi.
Et ça, c'est un autre de vos paradoxes, c'est ces deux origines-là.
C'est ces deux origines, ouais, exactement.
Vous racontez dans votre spectacle Paradoxe une enfance aussi sous le sceau du racisme. Alors vous en rigolez, mais le racisme était quand même présent, les clichés sur la Turquie aussi, c'est ça?
Oui, toujours. De toute façon, dès qu'on on appartient à une minorité, nous, par exemple, c'est le kebab, quoi.
C'est-à-dire?
On m'a déjà demandé, est-ce que tu veux manger au kebab ce soir? Je dis, j'aime bien. Mais il me dit, enfin, il y a des trucs que je ne comprends pas. Il y a des gens qui me demandaient si je voulais manger au kebab, comme si, genre, chez moi, j'avais une broche, quoi. Enfin, genre, comme si moi, j'avais pas le droit d'aller manger un sandwich à l'extérieur, je sais pas.
Comment il réagit, votre public? Est-ce que vous avez du public d'origine turque, d'ailleurs, qui réagit?
Alors,
qui
oui,
vient
énormément de gens de ma communauté qui viennent dans ma salle. Il n'y a pas que ça, hein, mais maintenant, c'est une minorité, du coup, dans ma salle. Mais ils sont très contents. Je suis le premier humoriste turc en France, donc ils sont fiers, je pense.
Ça fait écho avec leur vécu, avec leur ressenti.
Ça fait écho, ils se reconnaissent dans ce que je dis, ouais, exactement.
Il y a un personnage aussi très présent dans votre spectacle, c'est votre père.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma communauté, quand on va en sortie, on est toujours bien habillé. J'allais à l'école, costume, chaussures de ville. Je dis, papa, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, on sait jamais, tu trouves un travail, papa. Tout le monde me prend pour un huissier, c'est tout ce qui se passe. J'arrive à l'école, tout le monde est là, rangez vos trous, il va nous les prendre. Ça va, Oumoud, t'as fait tes devoirs? J'ai même fait le bilan comptable de papa, madame.
Elle était comment votre éducation, l'éducation que votre père vous a donnée, Oumoud Kocker?
Une éducation, je vais dire, pas très stricte, parce que mon père est très cool. Mais je pense qu'il a, mon père a tout fait, parce qu'il est arrivé à 14 ans en France, il a vraiment tout fait pour qu'on puisse avoir la meilleure vie possible en France.
Vous parlez d'éducation préventive à un moment, vous pouvez nous en dire plus?
L'éducation préventive, c'est alors quand ton fils ou ta fille a un défaut, il faut lui dire à la gueule. Moi, je me mangeais beaucoup avec ton long nez, mais je sais que j'ai un petit cousin.
De la part de votre père, du coup?
De mon père, ouais. Il ne fallait pas être gros.
Ok.
Parce que moi, mon cousin, il me prenait cher, on me disait gros, gros. Mais en fait, on prépare les petits à l'harcèlement.
Ok, comme d'accord.
Comme ça, quand
c'est
il va
préventif, comme
c'est
vous
ça.
Dites.
C'est ça.
Comment il a réagi, votre père, quand vous avez décidé de monter sur scène après plusieurs années d'études?
Je crois qu'il m'a dit débile mental en turc. Parce qu'il m'a vu galérer, il m'a dit pourquoi tu veux faire de la scène, tu reprends tout à zéro. Mais il est fier aujourd'hui.
Il est venu vous voir?
Pas encore, mon papa.
Vous
ma
avez...
mère, oui, mais
ouais.
Pas mon père.
Et votre mère, elle a réagi comment?
Ma mère est très fière.
C'est
très
vrai?
Très contente, ouais.
Et elle a ri?
Elle a beaucoup ri, ma
mère. Elle s'est pas vexée?
Pas du tout, vraiment pas.
Le stand-up aujourd'hui, c'est un monde qui peut paraître très concurrentiel. On voit beaucoup, par exemple, de youtubeurs qui vont se lancer sur scène. Comment on se fait une place dans cette jungle-là, selon vous?
Il faut travailler et pas lâcher l'affaire. Je pense que c'est la persévérance qui mène au bout du chemin.
Vous vous interdisez des sujets?
Je m'interdis aucun sujet.
Est-ce qu'il y a
À part si je ne l'aime. Alors, je m'interdis un sujet à partir du moment où je ne maîtrise pas le sujet.
D'accord.
Voilà, si je maîtrise un sujet, je parle. Si je ne maîtrise pas, j'en parle.
Et à vos débuts, à Paris, l'idée, c'était de ne pas s'auto-censurer.
Ouais, je pense qu'au début, on est plus dans la recherche de soi-même déjà sur scène, avant de savoir écrire quelque chose ou prendre des avis.
Vous l'avez dit, il faut brusquer et choquer en comédie club. Il y a une culture de plus en plus importante, du roast. Donc je pense à Redouane Bougueraba. Ouais. Donc le roast, c'est quoi? C'est interpeller quelqu'un du public et un peu se lâcher sur lui. C'est ce qui fait l'identité de Redouane Bougueraba, qui a d'ailleurs rempli le Vélodrome, on le rappelle, à Marseille. Ça permet aussi pour certains de créer de la séquence sur les réseaux sociaux sans dévoiler l'intégralité de son spectacle. Vous, comment vous interagissez avec le public et comment vous regardez cette tendance aussi du roasting et de la séquence sur les réseaux sociaux?
Bah écoutez, je pense que ce qu'a fait Redouane, c'est vraiment quelque chose de très bien pour le métier, parce que ça permet aussi aux gens de comprendre un peu la culture du stand-up. Moi, c'est pas mon cas. Personnellement, je fais pas énormément d'interactions, à part si quelqu'un dans le public...
A une barbe?
A une barbe, ou si quelqu'un parle fort, ou voilà. Mais je pense que c'est... De plus en plus, le stand-up, ça s'ancre dans le paysage. Et ça, c'est le plus important, je pense. Peu importe la manière dont on le fait.
Et vous avez dit d'ailleurs que le public qui va voir le stand-up, l'idée, c'est que quand ils sortent, ils soient choqués, c'est ça?
Il faut qu'ils soient choqués ou il faut qu'il ait retenu quelque chose. C'est deux choses que je dirais.
Vous avez rapproché dans une interview le stand-up du rap comme un art qui permet aux gens d'en bas de dire ce qu'ils ne peuvent pas dire. Est-ce que vous pouvez développer?
Exactement. On parlait de la cité, par exemple, de la banlieue. Quand on a un micro, les premiers rappeurs, quand ils ont tenu un micro, ils ont voulu dire des choses parce qu'on n'entendait pas assez les gens de banlieue parler, ou peu importe là, d'où tu viens en fait. Donc je pense que le stand-up, c'est quelque chose qui est lié à ça. C'est un art qui est underground et qui restera underground jusqu'à la fin des temps.
C'est quoi le paradoxe qui résiste encore le plus chez vous et que vous n'arrivez pas à résoudre au Moutcocker?
Le paradoxe que j'arrive pas, je pense,
à surmonter.
Waouh, c'est dur, c'est une très bonne question ça. Le paradoxe que j'arrive pas à surmonter, c'est tout ce qui dédouble en vrai. Je crois que je suis continuellement confronté à mes paradoxes jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Je pense que tous les paradoxes vont me suivre jusqu'à la fin de ma vie.
Vous avez baigné au Moutcocker dans les pages de One Piece. Je l'ai lu dans une.
Ouais.
Vous avez beaucoup lu de manga, c'est
exactement,
ça.
Exactement. Ouais.
Et ça vous a même inspiré. On va parler du shonen d'ailleurs.
Exactement.
Alors avec l'équipe du Mac de l'été, on a eu envie de vous présenter un mangaka qui bouscule les codes. Lui aussi, il s'appelle Just Louis. Et il nous rejoint juste après notre pause californienne avec les trois sœurs de Haïm sur Down to Be Wrong sur France Inter.
Down to be wrong. Don't need to be right. I left you the keys, I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight, you can't talk me out of it.
These pills.
Démissionner, oui, mais en chanson, c'était Down to Be Wrong de Haïm, extrait de leur nouvel album I Quit.
Le mag de l'été sur France Inter.
Pour ceux qui nous rejoignent, je suis toujours avec vous, Umut Koker. On a parlé de votre tout premier spectacle drôle et grinçant, il s'appelle Paradox. Et on a été rejoint par Just Louis, un mangaka franco-ghanéen qui a publié en 2023 Red Flower Stories, la légende du roi Osei. Le tome 2 est sorti en janvier 2025. C'est une saga épique inspirée des contes d'Afrique de l'Ouest et des codes du shonen. Bonjour Louis.
Bonjour.
Alors, comme je l'ai dit, vous êtes né au Ghana, vous avez grandi, vous le dites en interview, sans manga, et vous signez aujourd'hui une série chez Glénat. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu votre parcours et votre formation ?
Avec plaisir. En quelques mots, j'ai grandi au Ghana, donc forcément pas d'accès au manga aux librairies comme on peut l'avoir en France. Donc c'est grâce à One Piece que j'ai découvert le manga à mes 19 ans. C'était assez tardif, mais je pense que tout le monde a commencé par là. Et ça m'a donné envie de raconter mes histoires en manga. Donc pas d'une, pas deux, j'ai déménagé en France en 2015.
À 21 ans, c'est ça ?
À 21 ans, c'est ça. Je me suis formé auprès de mangaka japonais. J'ai posé des questions à tout le monde qui voulait bien me répondre. Jusqu'à me lancer en auto-édition en 2019 à peu près avec ma première série. C'était des histoires courtes inspirées de contes et légendes ouest africaines, donc Red Flower Stories. Et grâce à ce petit projet que j'ai fait en indépendant, j'ai été repéré par une maison d'édition que tout le monde connaît, un Glénat. Et aujourd'hui, je signe ma série en 5 tomes. Donc ce sera Red Flower, mais une version plus longue, avec plein d'histoires d'aventures inspirées de mon enfance au Ghana. On va y retrouver des arts martiaux, des gorilles géants, des baobabs, du vaudou, plein de belles choses. Et la suite arrive bientôt.
Et vous avez d'ailleurs, quand vous vous êtes auto-édité, vous aviez lancé une grosse campagne de crowdfunding qui avait très très bien marché. Est-ce que vous pouvez nous pitcher Red Flowers pour que nos auditeurs aillent en librairie directement après l'émission ?
De ce pas, yes, Red Flowers, j'aime bien le résumer en quelques mots, c'est un peu un cross entre Kirikou en manga, Naruto en Afrique, c'est un peu des deux en fait, c'est un mix d'action, d'aventure, de fantasy, on va y retrouver des proverbes africains, on va y retrouver les histoires de mon enfance, les choses que ma grand-mère me racontait quand j'étais petit, mais aussi tout ce qu'on a envie de voir dans les mangas, c'est de l'action, il y a des scènes de combat, il y a des gorilles géants, il y a un jeune homme qui veut à tout prix devenir un adulte, donc on va retrouver tous les éléments du shonen classique. Et effectivement, au début, je me suis lancé en financement participatif parce qu'un projet comme ça, je voulais qu'il soit porté par les lecteurs, je voulais qu'il soit porté par ma communauté. Et c'est eux qui ont financé le projet en 2019 et qui m'ont permis de me lancer et de devenir mangaka.
Red Flower, c'est un shonen, donc je vais le traduire pour nos auditeurs qui n'y connaissent rien en manga. C'est un manga destiné parfois au jeune public dans lequel le héros évolue par épreuves successives. Ici, votre héros, on va le dire, il est noir, il est enraciné dans une culture africaine, même si c'est un imaginaire et un monde fantastique que vous avez créé. Pourquoi est-ce que vous avez senti en tant qu'auteur noir, en tant que lecteur, une attente pour avoir des héros qui vous ressemblent ?
Au début, non, je pense qu'on raconte tout simplement mieux ce qu'on a vécu. Et donc, j'avais pas envie de, par mimétisme, raconter une histoire qui allait se passer au Japon, n'ayant pas grandi au Japon, n'étant pas japonais. Je voulais raconter quelque chose qui allait me toucher moi aussi. Donc, je me suis inspiré des contes de mon enfance. C'est aussi par envie de changer un petit peu par rapport à ce qu'on avait déjà lu, Les pirates, ça a déjà été fait. Les ninjas, on connaît. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à raconter aux gens qu'ils auront peut-être pas déjà lu ailleurs. Et je me suis dit, voilà, les fables de La Fontaine, on connaît, mais les fables et les contes africains, pas encore. Donc je me suis lancé là-dedans.
Et justement, pourquoi ces légendes, elles sont si puissantes narrativement ?
Alors là, va falloir demander aux griots ancestraux, mais je pense que c'est des légendes qu'on se répète et qu'on se transmet de génération en génération depuis des centaines d'années. Donc aujourd'hui, on les retrouve un petit peu dans mon format manga, mais à la base, c'est une tradition orale qui se fait en Afrique. C'est des histoires qui se racontent autour du feu le soir au village.
On parlait de paradoxe avec Umut Koker en première partie. Donc vous mêlez-vous, juste Louis d'ailleurs, une tradition orale africaine avec une forme japonaise qui est très codée. Ghana et manga, c'est pas paradoxal selon vous ?
Au début, on peut le croire. Et au final, quand on se rend compte que le schéma narratif, l'évolution du héros, le shonen, ça reprend beaucoup des éléments du conte. Je pense que c'est pour ça que le shonen marche autant. C'est parce qu'il y a ces éléments qui vont inviter...
Aussi, ouais.
Exactement. Moi, j'ai grandi avec l'Odyssée d'Homère. J'ai grandi avec les fables de La Fontaine. J'avais envie de reprendre ce schéma où le héros va quitter le village, grandir, revenir transformé. Et donc, au final, on se rend compte que ça s'épouse parfaitement conte traditionnel africain et narration japonaise qui l'eût cru.
Umut Kocur, vous parlez parfois de shonen pour décrire votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Ben, je pense que les mangas aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel beaucoup de jeunes s'identifient. Et l'exemple que ça peut être de One Piece avec Luffy, c'est vraiment une image sur laquelle on se colle et on essaye d'avancer avec la même mentalité que ces super-héros. Quoi.
Et comment vous pouvez définir cette mentalité pour nos auditeurs qui ne connaissent pas One Piece, par exemple ?
Je ne sais pas, mais moi, je peux définir cette volonté par la volonté du feu. On retrouve ça dans Naruto. C'est la volonté de ne jamais abandonner et de s'accrocher à ses rêves. Quoi.
Umut, est-ce qu'il y a un personnage de la culture manga qui vous inspire ?
Beaucoup, hein. Luffy dans One Piece, ça peut être Sangoku dans Dragon Ball, ça peut être Naruto, ça peut être plein d'autres mangas en vrai.
Est-ce que Louis, il y en a d'ailleurs dans vos mangas à vous et dans votre série à vous, il y a de l'humour. L'humour, c'est compatible avec la culture manga ?
Ouais, absolument. Ça dépend quel genre de manga, mais je pense que l'humour c'est un outil narratif nécessaire. Parce que les récits qui se prennent trop au sérieux ont tendance à perdre les lecteurs. Je pense que de temps en temps, entre deux drames, il faut se poser, il faut rigoler. Et il faut que les personnages ils soient attachants, tout simplement. Un personnage qui rigole jamais, c'est un personnage auquel il est dur de s'identifier, je trouve.
Umut Kocur, est-ce que vous puisez votre sens de l'humour dans votre culture manga, parfois ?
Ça peut, oui. Ça, je pense que je peux être inspiré inconsciemment.
Juste, Louis, vous nous décrivez un peu votre personnage, votre héros, Kelly ?
Kelly, c'est un jeune garçon impétueux, il est très pressé de grandir, il veut à tout prix devenir un adulte, mais comme beaucoup de jeunes garçons et de jeunes enfants tout court, il n'a pas encore compris la philosophie de ses aînés. Hein. Il comprend pas les préceptes de non-violence de son village, il est trop précipité, il n'a pas assez de tact, et il va devoir grandir, il va devoir prendre en responsabilité, en maturité, pour pouvoir finalement sauver sa tribu d'ici la fin des 5 tomes.
On l'a dit, hein, Louis, vous vous êtes inspiré de contes et de la culture de l'Afrique de l'Ouest. Et vous avez dit en entretien, je ne voulais pas m'éparpiller et en faire un safari en Afrique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez dit ça ? Est-ce que ça signifie ?
Ah oui, en fait, voilà. Je pense que ma première responsabilité, c'est de raconter une histoire intéressante. Et c'est vrai que par la suite, il y a eu tout l'engouement pour la présentation de la culture africaine qui est très intéressante, que j'ai beaucoup envie de mettre en avant.
Et que vous mettez mais très bien en avant dans la série, hein, d'ailleurs.
Voilà, mais il faut pas que ça devienne mon sujet centre. Le but, c'est pas de faire un documentaire, c'est de raconter un conte initiatique. Parce que bien qu'il y ait des personnages noirs, vous l'avez dit, il y a tout un folklore, un background africain. C'est pas le but premier. Moi, je veux écrire une histoire universelle. C'est un récit qui peut toucher tout le monde, qui va intéresser tous les gens, peu importe d'où ils viennent. Et donc, mon but, c'était pas forcément de raconter une histoire sur l'Afrique.
On l'a dit, hein, vous avez financé vos premières versions en auto-édition avec un taux de soutien assez spectaculaire. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour vous de travailler avec une machine de guerre comme Glénat ?
C'est Glénat, ça va être une toute autre mode de fonctionnement. Hein. On a une distribution qui est beaucoup plus grande, on a une équipe qui est beaucoup plus grande, ce qui va me permettre de déléguer certaines choses qui me prenaient beaucoup de temps avant. Hein. Quand on est en auto-édition, on doit tout faire. On doit faire le marketing, la réception des colis, les envois, les déplacements, sa propre comptabilité. Bref, des choses pour lesquelles je suis pas forcément très doué. Et avec Glénat aujourd'hui, je peux me recentrer sur la création pure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'essaie de ne penser à rien sauf la suite de mon histoire et de déléguer tout ce qui est un petit peu plus relou, on va dire, à Glénat. Ils sont là pour ça.
Et justement, la suite de votre histoire, est-ce que vous avez des indices à nous donner, Louis, sur ce qui va se passer pour Kelly ?
Des indices à vous donner en avant-première. Alors, pour ceux qui auraient lu déjà les deux premiers tomes, hein, on a découvert le personnage de Kelly et ensuite de son grand frère dans le tome 2. Et je pense que dans le tome 3, on va pouvoir remonter une génération de plus et se rapprocher d'un personnage qui a beaucoup touché les lecteurs à la première lecture, qui est le roi. Donc attendez-vous à découvrir le père, le paternel.
Merci Louis, merci Umut Kocur. Les vacances c'est bien, mais le bon livre, la bonne série, le bon podcast c'est encore mieux. On met quoi dans sa valise ? C'est le kit de survie culturelle. Umut Kocur, un humoriste à aller voir sur scène. Question.
C'est une question. J'en ai plusieurs. Il faut aller voir Louis Chappet, Rem Mendes, Ilyes Mella, Myriam Benoît et Sarah Lélé. Voici mes 5 recos.
Louis, un manga à lire pour ceux qui n'y connaissent rien.
Moi, je vais donner une recommandation un peu hors du classique des deux mangas qui m'ont beaucoup touché, mais qui sont un peu old school. Ça va être Shaman King et Toriko.
De quoi ça parle en quelques mots ?
Shaman King, c'est un jeune garçon qui va découvrir l'esprit d'un samouraï d'il y a quelques centaines d'années et qui va être embarqué dans une épopée de bataille et d'action et d'aventure. très très cool pour commencer le manga et les codes du shonen. Et Toriko, c'est un chasseur de monstres qui mêle action, aventure et cuisine.
Umut Koker, le plus beau barbu à suivre sur les réseaux sociaux.
Ben, on va redonner de la force un peu à Merwan, parce que sa barbe est belle.
Très bien entretenue.
Très bien entretenue. Et celle de Jason Brokers aussi.
Louis, la musique que vous écoutez quand vous dessinez?
Tout ce qui me fait vibrer, ça dépend de la scène. Si j'écoute Avatar de James Cameron, ben je fais des scènes épiques, de l'action, de la fantasy. Je peux écouter les génériques de Disney, je peux écouter les génériques de Harry Potter. Ça dépend vraiment de ce que je dessine, mais il faut vibrer quoi.
Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France, évidemment. Merci à tous les deux. Umut Koker, vous serez sur la scène du théâtre Métropole à Paris les jeudis et vendredis à partir du 26 septembre pour votre spectacle Paradoxe et en tournée dans toute la France. Première étape Aix-en-Provence le 1er octobre. Louis, merci. Les deux premiers tomes de Red Flower sont publiés chez Glénat et on vous retrouve aussi sur Instagram. Joyeux et joli, chassé, croisé à tous les deux. C'était le Mac de l'été avec Louis Tempero, Tarana Touri et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission. Étienne Bertin à la réalisation. Assisté d'Amazir Amadaïn Guest et d'Etienne Kennel. À la technique, Mathias Aléon. Après le journal de 19h, vous retrouvez votre rendez-vous avec le téléphone sonne. Ce soir, Charlotte Piret, comment recueillir la mémoire de nos proches?
Tout à fait, car si on y songe, toute vie mérite bien d'être racontée, non pas dans l'idée d'en faire un best-seller, mais plutôt une biographie à 20 exemplaires distribuée à la famille sur la vie de mamie Jacqueline, les années militantes de tonton Georges, les recettes de tante Huguette. Bref, vous avez compris, ce soir on parle mémoire de nos proches et biographie de vies ordinaires. L'avez-vous fait? Aimeriez-vous vous y mettre sans savoir vraiment comment vous y prendre? Venez témoigner ou posez toutes vos questions à nos invités. Le numéro est inchangé, 01 45 24 7000 et le téléphone sonne, c'est juste après le journal.